Vous écoutez, on lit pour vous.
Courir le marathon grâce à des bulles d'algues. Un texte de Sarah Champagne, paru le 30 mars 2026 dans la presse. Au lieu d'attraper des gobelets à usage unique le long du parcours, les marathoniens montréalais pourraient un jour avaler des bulles d'eau ou de gel énergisant. Une innovation verte qui pourrait marquer le début de la fin de la dépendance aux microplastiques. Ces bulles comestibles, recouvertes d'une fine membrane d'algues brunes, ont déjà connu un vif succès lors du marathon de Londres. Certaines capsules contenaient de l'eau, d'autres des boissons énergisantes ou encore des gels. Dans des laboratoires du Royaume-Uni, des scientifiques en bioconception pousse plus loin en manipulant des algues gluantes pour remplacer les gobelets de café faussement écologiques. Déjà, des boîtes repas conçues à partir d'algues font fureur dans une cinquantaine de stades de football britanniques, dans des salles de concert et aux studios de Harry Potter. À Londres, la chaîne IKEA les a adoptées dans un magasin pour servir ses traditionnelles boulettes. Les boîtes ont aussi déjà été utilisées dans deux stades de la NBA, dont celui de Portland, en Oregon. L'entreprise derrière cette découverte se nomme Notpla. Elle a baptisé ses bulles de course fabriquées avec des algues OO. Elle bénéficie d'une bourse de 4 millions d'euros, 6,4 millions de dollars, provenant du programme de l'Union européenne Horizon Europe, dont l'enveloppe atteint 95,5 milliards d'euros, 140 milliards de dollars. Cet argent vise à lutter contre les changements climatiques en poussant la recherche et l'innovation dans le monde jusqu'en 2027. Grosso modo, les scientifiques de Notpla parviennent à extraire la partie gélatineuse d'une algue nommée sargasse envahissante. Elle est purifiée, séchée, broyée et transformée en gélatine. Ce gel, combiné à d'autres ingrédients naturels, donne naissance à un cocktail, puis à des membranes souples, résistantes à l'eau et aux graisses. Tous les ingrédients proviennent de la nature, rien de chimique n'est ajouté. C'est décomposable à la maison en quelques semaines, assure Notpla qui a obtenu des brevets. Pour imager, nous fabriquons de la vaisselle mangeable. On s'inspire de la nature, dit Pierre Passier, cofondateur de Notpla. Dans son bureau de Londres, des dizaines de flacons d'algues, réduites en poudre, sont alignés sur une étagère. Le président-directeur général explique à la presse en visioconférence qu'il s'agit d'algues provenant des quatre coins du monde, dont l'Alaska et l'Australie. Son objectif, établir des partenariats en utilisant des algues locales pour produire des bulles, gobelets et boîtes repas. Par exemple, les grands festivals montréalais ou marathons canadiens pourrait offrir des bulles et de la nourriture dans des contenants fabriqués à partir d'algues envahissantes de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Trop souvent, estime M. Passier, les consommateurs se font flouer en pensant que les contenants sont recyclables ou biodégradables. Il y a beaucoup d'éco-blanchiment dans le domaine, se désole-t-il. Ce n'est pas très bon de mettre de la boisson ou de la nourriture chaude graisseuse en contact avec une fine couche de plastique collée de manière pas très efficace à du carton. Le polymère utilisé, APL, de l'acide polylactique, est un bioplastique conçu à partir du maïs. Il n'existe pas dans la nature. Ces contenants ont de grandes chances de générer des microplastiques nocifs pour l'environnement, pour la santé, explique-t-il. Inspiré par le faux caviar. L'idée de manipuler des algues sans avoir recours à des produits chimiques est venue au dirigeant et à son associé, Rodrigo Garcia González, lors de leur maîtrise universitaire en innovation. Ils se sont dit, que ce serait révolutionnaire d'arriver à reproduire naturellement la plure d'un fruit, comme une pomme ou des raisins. Ils se sont aussi inspirés du faux caviar de l'après-guerre, à base de gélifiants et d'extraits marins. Depuis le début de sa présence dans des stades et événements, notre plat estime avoir réussi à éliminer 40 millions d'articles en plastique à usage unique. On estime que 80 milliards de gobelets sont produits actuellement par année dans le monde. Si on arrive à remplacer ne serait-ce que 10 % de cette quantité, ce serait géant comme impact sur l'environnement. Et la beauté de l'affaire, c'est que notre innovation ne nécessite pas la construction d'usines. Ça peut très bien se faire avec de l'équipement existant, ajoute le haut dirigeant. Un défi demeure, celui de s'allier à des organisateurs d'événements déjà commandités par de grandes marques sportives. M. Passlier explique que les grands événements sportifs reçoivent souvent gratuitement des barils de boissons énergisantes et des bouteilles d'eau. C'est le chaînon manquant à notre expansion. Conclure des partenariats à l'extérieur du Royaume-Uni et des États-Unis, précise le dirigeant. À Montréal, la distribution d'articles en plastique à usage unique est interdite. Ces produits ne sont pas acceptés dans le bac brun, pas plus que les ustensiles en bois. Ces articles ne se compostent pas dans les installations municipales. Les boîtes de pizza en carton souillé ou boîte repas peuvent aller au compostage, mais la récupération est privilégiée, a indiqué à la presse la porte-parole de la Ville de Montréal, Camille Bégin. Au Canada, le terme « compostable » pour le plastique n'est pas réglementé. C'était « Courir le marathon grâce à des bulles d'algues », un texte de Sarah Champagne paru le 30 mars 2026 dans la presse.
Ceci n'est pas un manuscrit. Un texte de Pierre Huet, paru le 8 mars 2026 dans La Presse. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait 8 ans de latin pour deviner que le terme « manuscrit » désigne un texte qui a été écrit à la main. Or, je lisais récemment que le manuscrit du récit « On the Road » de Jacques Kerouac va bientôt être mise aux enchères pour la somme de départ de 2,5 millions. Je ne veux pas chipoter, mais de fait, ce n'est pas un manuscrit. C'est un tapuscrit, mot un peu boboche, qu'on a inventé pour désigner un texte écrit à la machine, à écrire ou à l'ordinateur. Il arrive régulièrement qu'on me demande la version manuscrite d'un de mes textes, toujours la même dizaine, pour la mettre aux enchères au profit d'une cause, pour l'ajouter à une collection, ou pire, pour l'offrir en cadeau à sa belle-sœur Ginette. Disons qu'il y a des demandes plus faciles à refuser. Parfois, c'est par initiative personnelle que je le fais. Ainsi, il y a quelques années, des amis très chers nous avaient invités à souper chez eux pour la première fois. Le hasard faisait que nous étions un 23 décembre. Je leur ai offert un manuscrit de la chanson dont c'est le titre. Depuis, le manuscrit encadré trône dans le hall d'entrée et notre hôtesse m'a fait très plaisir un jour en me disant qu'en cas d'incendie, c'est la première chose qu'elle sauverait. Mais cette manie des manuscrits peut mener à certains excès. Le regretté Shane McGowan du groupe The Pogues avait deux problèmes de liquidité. Il était toujours cassé et il buvait trop. C'est pourquoi il lui arrivait de rentrer dans le premier pub venu pour y écrire au dos d'un menu les paroles de sa merveilleuse chanson « Fairy Tale of New York » qu'il offrait en échange d'une Guinness ou 8. Ce n'est pas cher payé pour un manuscrit. J'ai récemment reçu l'appel d'un organisme très important qui voulait mettre, respectueusement, la main sur le manuscrit d'une de mes chansons. Petit retour dans le passé. Il y a plus de 50 ans, je débarquais chez Jerry Boulet, rue de la Visitation, avec ce qui était en quelque sorte mon audition pour travailler avec le groupe Offenbach, le texte de « Mes blues passent plus dans la porte ». On connaît la suite. Mais pas tout à fait. Jerry Boulet était un grand chanteur, n'était pas un parolier, mais était un excellent script-éditeur qui pouvait vous dire en termes très francs ce qui clochait dans un texte. Après mon départ, quand lui et Breen Leboeuf se sont installés au piano pour mettre en musique mon texte, Jerry a coupé une phrase de ce dernier. Je ne sais pas laquelle, et j'aimerais bien le savoir. Oui, pour une rare fois, je m'étais gardé une copie des blues. Avec des brigands, même au cœur d'or, comme Offenbach, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Sauf que... Petit saut dans le futur. J'ai un très bon ami, Bernard, poète et bédéiste, avec qui je partage à l'époque des chalets et des amoureuses et qui collectionne les originaux de bandes dessinées et de textes de chansons. Je lui offre mon original des blues. Comme ça. Parce qu'en toute candeur, dans mon groupe d'auteurs-compositeurs, on se faisait une fierté de ne pas s'attacher aux choses matérielles. Nous étions jeunes. Autre saut dans le futur. Mon ami Bernard est mort, et sa fiancée ultime, dont je connais à peine le prénom, est disparue dans la nature. Non sans, semble-t-il, avoir dispersé sa collection de planches et de manuscrits. Avec, entre autres, je le précise, celui que je lui avais offert, le manuscrit original d'une chanson qui, ma foi, s'est taillé une place dans le cœur collectif des Québécois. J'ai bien sûr contacté Breen Leboeuf, qui a co-composé et chantera magnifiquement jusqu'à la fin de ses jours les blues. Non, il n'a pas ce manuscrit. J'ai parlé à Françoise, la veuve de Jerry. Rien. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre que notre ami n'était pas le plus ordonné des hommes. Retour aux gens de cette institution qui m'a contacté. Ils aimeraient bien mettre la main sur le manuscrit original des blues passe plus dans la porte. Et moi, donc? Juste pour savoir quelle était cette fichue phrase que Jerry a sans doute eu la bonne idée de couper. Un ami d'un ami de la fiancée invisible de Bernard me jure que cet original orne le mur d'une pharmacie de Sherbrooke. De Sherbrooke? Bernard habitait Moran Heights, dans les Laurentides. Et pourquoi? Pourquoi un pharmacien? Et si au moins c'était un dentiste, je pourrais lui proposer un troc ou... En échange du manuscrit des blues, je lui offrirai celui du temps d'une dinde que j'ai écrit pour le plus célèbre édenté du Québec. En attendant, ouvrez l'œil. Si par hasard votre pharmacien de Sherbrooke a sur son mur, à côté de son diplôme, un bout de papier avec des phrases de 8 pieds, contactez-moi. Pas besoin que ce soit manuscrit. C'était « Ceci n'est pas un manuscrit », un texte de Pierre Huet, paru le 8 mars 2026 dans La Presse.
«
Dave Noël fait parler les navires disparus de la Nouvelle-France. Un texte de Sarah-Louise Pelletier-Morin, paru le 17 mars 2026 dans Le Devoir. Histoire d'épave est bien plus qu'un inventaire de naufrages. D'un chapitre à l'autre, Dave Noël fait remonter à la surface des bateaux disparus, mais aussi des récits de survivants, des objets tirés des profondeurs, des controverses savantes, des gestes d'archéologues et des pans entiers de notre mémoire collective. De la petite Hermine à l'Auguste, son livre tiré d'une série d'articles parus dans Le Devoir et largement enrichi pour l'occasion, propose une traversée chronologique de 1536 à 1761, où les épaves deviennent des portes d'entrée dans l'histoire maritime, militaire et sociale de la Nouvelle-France. L'ouvrage, illustré par des cartes, des gravures et des photographies, se clôt d'ailleurs sur un glossaire qui rend le tout accessible et digeste. Historien de formation et journaliste au Devoir, Dave Noël s'est d'abord fait connaître par ses travaux sur la conquête, notamment dans Montcalm, général américain et Chartier de Lotbinière. Avec Histoire d'épave, il déplace toutefois légèrement son regard. À la base, je suis historien. Ensuite, journaliste, dit-il. Ce double ancrage se ressent dans le livre, nourri à la fois par les archives, les récits anciens, les rapports archéologiques et un sens certain du récit. L'intérêt pour ces trésors enfouis, lui, remonte à loin. Dans l'introduction, M. Noël écrit que la découverte de l'Elizabeth and Mary dans l'estuaire du Saint-Laurent au milieu des années 1990 a constitué l'événement archéologique de son adolescence. Plus loin, il évoque l'appel du grand large qui l'a accompagné depuis la plaine d'Héberville au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Durant l'entretien, il revient sur cette fascination ancienne. Les épaves, dit-il, c'est comme les îles, ça intrigue. Il y a une aura de mystère autour de ça. Longtemps, il a accumulé des dossiers sur ces navires liés à la Nouvelle-France avant d'en faire une série d'articles, puis un livre. Dans ces chapitres qui épousent la chronologie coloniale, les épaves gardent la trace des rêves d'empire, des défaites, des traversées ratées et des départs forcés. Certaines sont célèbres, comme la Petite Hermine de Jacques Cartier, dont l'identification demeure partiellement incertaine. D'autres le sont moins, comme le San Juan, baleinier basque échoué à Red Bay, au Labrador, en 1565, ou l'Atalante, frégate coulée en 1760 dont la mémoire a connu d'étranges réemplois. M. Noël rappelle d'ailleurs que l'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir trouvé l'épave pour qu'elle existe dans la mémoire. C'est l'une des idées fortes du livre. L'épave est à la fois objet matériel et forme survivant dans l'imaginaire. Récit des profondeurs. L'une des forces de l'ouvrage tient à l'équilibre entre vestiges et récits. Au-delà des vestiges matériels, les épaves ont laissé des traces dans les récits des survivants, écrit M. Noël. Certains témoignages permettent en effet d'approcher au plus près l'expérience du désastre. C'est le cas des chapitres consacrés à la renommée ou à l'Auguste, où les récits des rescapés donnent accès à l'angoisse, au froid, à la faim, à l'expérience concrète du naufrage. L'auteur accorde également une place importante aux archéologues subaquatiques. Leurs témoignages, écrit-il encore, ont été essentiels pour éclairer la trajectoire de ces voiliers et rappeler la fragilité de lieux aujourd'hui menacés par le pillage et l'érosion accélérée des côtes. En entretien, Dave Noël parle de ces spécialistes avec admiration. Ce sont, dit-il, des plongeurs chevronnés, mais aussi des historiens, un peu dans l'ombre. Le livre leur rend ainsi un hommage discret. Cette attention au travail archéologique permet aussi de dégonfler certains fantasmes. Les épaves de la marine à voile n'ont rien de spectaculairement intact. Arasées par les glaces, elles ont souvent été réduites à des amas de bois recouverts de sédiments. L'un des paris du livre consiste justement à redonner forme et épaisseur à ces vestiges presque invisibles. Les recherches gouvernementales pour trouver de nouvelles épaves demeurent toutefois coûteuses et souvent ponctuelles. Elles se poursuivent au gré des projets, notamment sous l'impulsion de Parcs Canada, mais aussi grâce à des passionnés qui, avec le temps, ont parfois délaissé la logique de la chasse au trésor pour celle de la transmission. Une autre histoire de la conquête. Le livre éclaire aussi un angle mort de notre mémoire historique. Ces altercations navales sont demeurées dans l'ombre des combats terrestres, note M. Noël à propos de la guerre de la conquête. Or, l'un des apports les plus stimulants de l'ouvrage consiste à montrer que les affrontements de 1755 à 1760 se sont joués aussi sur le fleuve, les rivières et les lacs, à portée de canons des rives. Si l'on associe souvent la guerre de la conquête aux batailles en forêt ou aux plaines d'Abraham, la guerre navale a pourtant occupé une place bien réelle dans ces conflits. C'est là que le cas de l'Atalante devient révélateur. Le navire, échoué près de l'actuelle Neuville en 1760, a été transformé au 19e siècle en symbole de résistance avant que son nom soit récupéré plus récemment par un groupuscule d'extrême droite de Québec. M. Noël montre avec finesse qu'une épave peut continuer à dériver dans l'histoire bien après sa disparition matérielle. Le livre s'achève sur l'Auguste, et ce choix n'a rien d'anodin. Le chapitre consacré au naufrage en 1761 de ce navire qui mène en France des militaires, des civils et des membres de l'élite coloniale après la conquête agit comme un épilogue. Son témoignage a frappé les esprits au point de devenir le symbole de la décapitation sociale de la société canadienne-française, écrit Dave Noël à propos du récit laissé par Luc de la Corne. En entretien, il résume fortement la portée symbolique de l'événement. L'Auguste, dit-il, c'est un peu le radeau de la Méduse du Canada français. Dave Noël ne cherche pas à clore les dossiers. Il propose plutôt un état des lieux, parfois hanté par des zones grises. Comme le souligne l'auteur, l'histoire des épaves demeure en mouvement, enrichie au fil des ans par de nouvelles découvertes. Ces navires engloutis obligent ainsi à repenser une part moins visible de l'histoire de la Nouvelle-France, celle qui s'est jouée sur l'eau avant de sombrer dans l'oubli. C'était « Dave Noël fait parler les navires disparus de la Nouvelle-France », un texte de Sarah-Louise Pelletier-Morin, paru le 17 mars 2026 dans Le Devoir.
Texte d'opinion. Santé cognitive, La Presse, Recherche, Francine Thériault. Les secrets de la réserve cognitive. Un texte de Catherine Anfield, paru le 22 mars 2026 dans La Presse. Pourquoi certaines personnes vieillissent-elles lucides alors que d'autres sombrent dans la démence? Depuis 35 ans, la singulière étude des religieuses apporte de fascinants éléments de réponse à cette question fondamentale, explication. Qu'est-ce que l'étude des sœurs? Lancée à la fin des années 1980, cette étude porte sur une cohorte de 678 sœurs catholiques d'âge avancé aux États-Unis. Chaque année, les chercheurs leur ont fait passer des examens neuropsychologiques, mémoire, orientation, attention, tout en évaluant leur autonomie au quotidien. Surtout, ces sœurs ont consenti à faire don de leur cerveau à la science après leur décès. L'incroyable force de cette recherche, les sœurs ont vécu toute leur vie dans des conditions pratiquement identiques. La force des idées. À l'entrée au couvent, au début de l'âge adulte, les sœurs ont rédigé une autobiographie. La richesse d'idées dans ces textes prédisait de façon exceptionnelle le risque de démence. Parmi les sœurs aux idées les plus riches, des phrases denses où chaque mot apporte une nuance, seulement 20% ont fini par développer une démence contre près de 70% de celles aux idées pauvres. Les habiletés linguistiques favoriseraient une meilleure réserve cognitive. Le cerveau développe assez de routes secondaires pour maintenir la circulation de l'information malgré les lésions physiques. Cette réserve cognitive tiendrait en grande partie au nombre de connexions entre les neurones et à la force de ces liens. Cerveau. Découverte majeure de l'étude, l'autopsie réalisée sur le cerveau de certaines sœurs a révélé des lésions cérébrales massives typiques de la maladie d'Alzheimer, plaques et enchevêtrement, alors qu'elles étaient restées parfaitement lucides. Cette découverte prouvait une chose, l'existence de mécanismes de protection capables de maintenir les fonctions mentales malgré les signes physiques de la maladie d'Alzheimer. Gènes. La génétique n'est pas une fatalité, mais elle crée néanmoins un terrain plus ou moins favorable à la démence. Le gène APOE, qui joue un rôle dans le métabolisme des gras dans le cerveau, est au cœur de cette loterie. Les sœurs porteuses de l'allèle APOE E4 ont été plus nombreuses à développer la maladie d'Alzheimer et celles qui ne le possédaient pas, plus susceptibles de conserver leurs facultés cognitives. L'allèle APOE E2 pourrait pour sa part réduire le risque de déclin. Cœur. L'étude a aussi montré que la démence est rarement le fruit d'une cause unique. Elle résulte plutôt d'une pathologie mixte. Chez les sœurs déjà atteintes de la maladie d'Alzheimer, les troubles vasculaires comme l'athérosclérose et les petits AVC, souvent invisibles, aggravaient les symptômes. Cette découverte souligne l'importance de contrôler sa tension artérielle, son diabète et son cholestérol pour maintenir son cerveau en santé. Éducation. L'éducation est un autre pilier de la réserve cognitive. Dans l'étude, les sœurs ayant un diplôme universitaire montraient un déclin moins prononcé que les autres et parmi celles n'ayant eu que l'enseignement primaire, les probabilités de développer une démence augmentaient. Cela dit, rien n'est figé. Des recherches ont démontré que les gens ayant peu d'instruction peuvent aussi acquérir une protection en restant cognitivement actifs tout au long de leur vie. C'était « Les secrets de la réserve cognitive », un texte de Catherine Anfield, paru le 22 mars 2026 dans la presse.